La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui d'aborder le sujet du portage de projets d'éducation artistique et culturelle dans un territoire à travers le témoignage de mes deux invités. Ève Domenac, en charge du plan local d'éducation artistique de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, aussi appelée CAPI, et Juliette Brouat, en charge du contrat territorial d'éducation artistique et culturelle appelé aussi CTEAC, pour la communauté de communes de la
Matusine,
située en Sud-Isère. Bonjour Ève et Juliette.
Bonjour.
Bonjour.
Mesdames, en introduction, j'ai prononcé le mot territoire, or je sais qu'il existe plusieurs sortes de territoires. Dans le cas de vos témoignages, pourriez-vous brièvement nous décrire votre territoire ? Ève, vous commencez ?
Alors, la CAPI, c'est une communauté d'agglomération qui comprend 22 communes et 108 000 habitants. Donc, c'est une commune qui est située dans le nord Isère, dans le département de l'Isère, mais à 40 km de Lyon. C'est ce qu'on peut appeler un territoire périurbain, avec à la fois des zones urbaines, avec beaucoup de quartiers en politique de la ville et 25% des habitants qui habitent dans des quartiers prioritaires et puis beaucoup de petites communes rurales. On a aussi beaucoup d'équipements culturels sur notre territoire, deux théâtres, un réseau de médiathèques, un musée, une scène de musique actuelle, un conservatoire, des cinémas et beaucoup d'établissements scolaires. Et c'est un territoire où il y a beaucoup de jeunesse. Voilà.
Merci Ève. Juliette, c'est à vous.
Oui, alors de mon côté, on part au sud, dans le sud de l'Isère. Donc la communauté de communes de la Matésine se situe dans un territoire rural de montagne. Elle regroupe 43 communes pour 19 000 habitants. Pour vous donner une idée de la ruralité, plus de 80% des communes ont moins de 500 habitants. La commune centre, c'est la commune de Lamure, qui compte 5000 habitants et qui concentre la plupart des équipements culturels du territoire, à savoir un cinéma-théâtre, une médiathèque, un musée et une école de musique.
Merci Juliette. Maintenant que nous connaissons vos territoires respectifs, je pense que l'on peut aborder le sujet de notre émission. Ève, si vous le voulez bien, je vais commencer par vous. Votre territoire, que l'on peut qualifier, et vous l'avez qualifié de périurbain, pourriez-vous dire à nos auditeurs et auditrices comment le projet de créer un dispositif d'éducation artistique et culturelle est né ?
Alors, en fait, à la création de la CAPI en 2005, il y avait deux jumelages existants, des jumelages entre des établissements scolaires et des structures culturelles. Et parallèlement, une volonté politique forte de la CAPI de donner une identité à ce tout jeune nouveau territoire. Et du coup, cette existence déjà de projets d'éducation artistique sur le territoire, le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes sur ce territoire et qu'il y ait beaucoup d'équipements culturels, la question était un peu comment faire travailler tout le monde ensemble. Et du coup, assez vite, un plan local d'éducation artistique est apparu comme un bon outil pour fédérer tous ces acteurs. Et donc, il y a eu un temps assez long de préfiguration pour se connaître, se rencontrer et voir un peu quels étaient les besoins et les attentes de chacun. Et il y a un premier PLEA, une première convention qui a été signée en 2013. Et là, on va être au deuxième renouvellement de la convention là. Donc tous les projets qui se font au sein de ce PLEA, c'est vraiment en lien avec les programmations des structures culturelles. Et l'objectif, c'est vraiment de créer des parcours coordonnés d'éducation artistique et culturelle sur tout le territoire et d'essayer d'aller vers vraiment une équité territoriale.
Effectivement. Merci Ève. Passons, si vous voulez bien, sur un territoire qualifié de rural. Juliette, c'est à vous.
Oui, alors la première convention territoriale d'éducation aux arts et à la culture a été signée en 2015. Au départ, c'est une initiative de la DRAC qui a ciblé le territoire de la Matésine comme un territoire prioritaire au regard de critères socio-économiques et géographiques. On est sur un territoire avec un taux de famille monoparentale largement supérieur à la moyenne départementale, avec pas mal de précarité sociale et puis un éloignement géographique. Alors au départ, la proposition n'a pas été très bien reçue par les élus de la communauté de communes. En plus, c'était une communauté de communes toute récente, créée en 2014 par fusion de 3 communautés de communes. Elle n'avait pas encore, on va dire, une identité politique forte. Et puis, ça a révélé un peu des divergences de vues sur la dynamique culturelle du territoire, avec d'un côté l'État qui donnait l'impression que il se passait pas grand-chose sur ce territoire, alors que les acteurs locaux soulignaient au contraire le dynamisme associatif et puis l'effet locomotive du cinéma-théâtre. Mais cependant, il y a eu quand même un engagement de la communauté de communes dans la démarche, parce que ça ouvrait à des nouveaux financements. Et au final, ça soutenait quand même l'émergence d'une politique culturelle communautaire. Donc là, on en est à la fin de la deuxième convention et on prépare la troisième convention. Le public, comme sur la CAPI, le public prioritaire, c'est le public jeune. Mais on va aussi vers des publics plus en difficulté sociale ou des publics dans les tout petits villages, avec 4 thématiques prioritaires, le spectacle vivant et le cinéma, la lecture publique, la musique et le patrimoine.
Effectivement, il y a de quoi faire. Merci Juliette. Mesdames, à vous entendre, je suppose que chacun des projets a nécessité la mise en œuvre de partenariats. Pouvez-vous, à tour de rôle, nous dire quels sont les partenaires auxquels vous avez fait appel? Qui se lance? Juliette, peut-être?
Oui, alors je vais d'abord citer les partenaires signataires de la convention, qui sont les partenaires financeurs. Donc nous avons autour de la table l'État, représenté par la DRAC, mais aussi par l'Éducation nationale, la DDCS. Nous avons la région, le département, la CAF et bien sûr la communauté de communes. Sont associés également les équipements culturels comme la Mur Cinéma Théâtre, qui a une convention avec la communauté de communes de la Matésine pour une mission de coordination culturelle. Il y a également le musée matésin et l'école de musique communale. Les autres partenaires, ce sont les structures socio-culturelles du territoire, les structures médico-sociales, le tissu associatif. Et alors, c'est vrai que on a des instances de gouvernance, comité de pilotage, comité technique. C'est des instances assez importantes en nombre de participants, donc c'est pas toujours évident de mener un travail de fond lors de ces réunions. Mais voilà, ça reste important d'articuler à la fois les attentes des financeurs, les possibilités et les envies des partenaires culturels, et les besoins des autres structures.
Effectivement. Merci Juliette, ça fait beaucoup de monde effectivement à coordonner ou à rassembler. Ève, comment c'est chez vous?
Alors pour les partenaires signataires, c'est à peu près les mêmes, État, DRAC, Éducation nationale, région, département et CAPI. Alors après nous, les 7 partenaires principaux, c'est vraiment les structures culturelles. Donc c'est 7 structures culturelles. Donc le Théâtre du Velin, le Théâtre Jean Villard, le Conservatoire Hector Berlioz, le Musée de Bourgoin-Jallieu, la scène de musique actuelle Les Abattoirs, et AMACO, c'est un laboratoire de culture scientifique et technique. Et donc ces 7 structures culturelles, c'est vraiment elles après qui vont mettre en œuvre les projets, donc en lien avec leur programmation et leurs projets artistiques. Donc c'est le Théâtre du Velin qui assure la coordination, donc avec un tiers de poste dédié là-dessus, le mien donc. Et puis après, nous on est très bien organisés pour toutes les interventions en temps scolaire, parce que c'est vraiment le cœur, c'est autour de ça que s'est créé le PLEA de la CAPI. Donc on a 2 professeurs relais, on a beaucoup de conseillers pédagogiques de circonscription ou départementaux. On a un représentant des proviseurs, un représentant des principaux, donc pour les collèges et les lycées. Donc on est vraiment bien organisé pour que le partenariat se passe très bien sur tous les projets en temps scolaire. Par contre, pour l'instant, et c'est un peu l'objectif sur le renouvellement de cette convention, c'est de mieux s'organiser pour mener vraiment des actions sur tous les temps d'enfants et notamment sur le temps hors scolaire pour être en lien avec les familles aussi. Et donc, il y a la CAF qui va intégrer les partenaires. Et on va essayer aussi de travailler plus en lien avec les communes et les structures d'éducation populaire socioculturelle.
J'avais une question là qui me taraude l'esprit. Vous avez toutes les deux dit État et DRAC. DRAC, ça ne fait pas partie de l'État?
Si, si, c'est-à-dire que l'État, il y a à la fois le ministère de la Culture, donc et ses services déconcentrés en région, la DRAC, et puis l'Éducation nationale.
D'accord, donc l'État
regroupe.
Donc quand vous dites État, ça regroupe les deux, quoi.
Voilà,
le ministère
et l'Éducation
nationale et culture. D'accord. Donc ça peut aider nos auditeurs. Effectivement, là, vous êtes dans votre monde, vous connaissez bien. Bien, Ève et Juliette, si vous voulez bien, je souhaiterais que nous abordions les aspects budgétaires de vos dispositifs d'éducation artistique et culturelle. À combien sont-ils évalués aujourd'hui? Une fourchette hein, de chacune. Ève?
Alors, déjà, juste vous expliquer un tout petit peu comment ça marche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de budget propre, nous, au PLEA, c'est uniquement un budget au projet. C'est-à-dire qu'on fait un projet dans un établissement scolaire et il y a un budget. Et donc, on additionne la somme de ces budgets et on arrive sur un budget de 175 000 euros environ, enfin entre 170 000 et 175 000 selon les années. Mais il faut savoir, c'est vraiment uniquement le budget là qui va sur les interventions artistiques et peut y avoir autour. Budget, il comprend pas du tout de masse salariale des médiateurs dans les structures culturelles. Il comprend pas la part du poste de coordination. Il n'y a pas de budget global. Voilà, là, c'est uniquement le budget au projet que je vous ai donné. Et sur ces 175 000 euros, il y a la DRAC, donc le ministère de la Culture, qui finance environ plus de 35%. Et la CAPI aussi, via ses structures culturelles, qui financent à peu près aussi 32%.
Juliette?
Oui, alors au niveau de la CTEAC, c'est un petit peu différent. Chaque année, on bâtit une programmation financière avec un programme d'action. Le budget annuel, il s'établit entre 60 000 et 80 000 euros par an, pour moitié financé par la DRAC, et le reste, c'est le département, la région, la communauté de communes et la CAF. Dans ce budget annuel est inclus mon poste de coordination à mi-temps. Et en fait, les projets sont portés par des équipements culturels ou des associations locales. Mais c'est la communauté de communes qui finance en direct les interventions artistiques, les déplacements scolaires s'il y a besoin. Voilà. On valorise également partiellement l'investissement du cinéma-théâtre dans les projets, à travers la mise à disposition de frais de régie, à travers l'hébergement des artistes quand ils viennent en résidence, voilà, des choses comme ça.
Et tous ces projets-là, en fait, quand on parle budget, c'est géré en coût de fonctionnement, c'est pas de l'investissement. Ça, vous pouvez pas faire, hein?
Non.
D'accord.
Il y a d'autres lignes, mais pas celles de la convention.
D'accord. Merci Juliette. Mesdames, maintenant que je vais m'adresser aux agents ayant un rôle dans la coordination d'un des dispositifs présentés dans notre émission. Hein. D'après vous, quel est le dénominateur commun des projets menés dans le cadre de chacun de vos dispositifs? Ève, vous pouvez répondre à cette question?
Le premier dénominateur commun, c'est qu'il faut qu'il y ait des partenariats, c'est-à-dire qu'il faut que les projets soient co-construits. Donc, à minima, il faut qu'il y ait une structure culturelle, un établissement scolaire ou une structure socio-culturelle et une équipe artistique. Et à partir du moment où il y a ces trois entités réunies, ils vont construire un projet qui va pouvoir être cofinancé. Et là, pareil, il faut forcément que les projets soient cofinancés par au moins deux partenaires. Il faut aussi que ces projets, ils permettent une pratique artistique qui soit vraiment basée sur les trois piliers de l'éducation artistique, hein. Qu'il y ait une œuvre à voir, qu'il y ait de la pratique et puis qu'on puisse après avoir une réflexion autour de ces œuvres. Et puis, il faut que aussi, c'est tout le temps avec des artistes qui sont des artistes en situation de création, quoi, des artistes qui présentent leur spectacle, qui tournent, c'est vraiment de favoriser la rencontre des jeunes avec ces artistes. Puis je pense que le dernier dénominateur commun, c'est que ces projets, il s'adresse à tous, qu'on soit dans un tout petit village ou dans un quartier ou dans une ville moyenne. Voilà, il faut qu'on puisse vraiment aller sur tout le territoire.
Et pour vous, Juliette, quelque chose à ajouter?
Alors, j'insisterai effectivement sur cette question du rayonnement géographique qui est très importante pour la cohésion territoriale du territoire. Mais sinon, oui, Ève a dit l'essentiel. On est aussi bien dans une démarche de projet c'est-à-dire avec la possibilité d'évolution du projet, de l'adapter, et pas dans une logique de procédure et de dispositif. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête.
Merci mesdames pour votre contribution. En évoquant le fait que vous auriez un rôle dans la coordination de dispositifs d'éducation artistique et culturelle, je me rends compte que certains de nos auditeurs et auditrices se demandent peut-être lequel. Pourriez-vous répondre à cette interrogation ? Ève, qu'auriez-vous à dire ?
Ma mission, c'est de coordonner ce PLEA. Donc, j'ai un tiers de mon temps de travail qui est dédié là-dessus. Sinon, je suis responsable du pôle des publics et de la programmation jeune public pour le théâtre du Velin. Et donc, sur un tiers de mon temps, je coordonne le PLEA. Donc, ça consiste vraiment à animer et à créer une dynamique entre les différentes structures, à faire que la réflexion se mettre en marche et qu'on arrive à co-construire des projets. Il faut aussi, bien sûr, animer les différentes instances, le comité technique, le comité de pilotage. Juliette en a déjà parlé. On met en place aussi des groupes de travail en fonction des thématiques qu'on veut développer. Il faut aussi suivre les demandes de subventions, communiquer avec les services, valoriser les projets. Et puis, les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce genre de poste, tout d'abord, c'est un peu le manque de temps. Et puis, c'est d'arriver à mettre en action, en marche, toutes les structures et tous les partenaires. Et chaque partenaire n'a pas les mêmes capacités humaines, budgétaires, les mêmes façons de travailler. Donc, c'est pas toujours évident de faire avancer tout le monde au même rythme et dans la même direction.
Effectivement. Et vous, Juliette ?
Oui, alors je pense que nos fiches de poste se ressemblent assez. Je rajouterais pour ma part la mission de mobiliser de nouveaux publics. Alors c'est vrai que je pense que sur la CAPI, le travail est fait peut-être par les équipements culturels eux-mêmes. Sur le territoire de la Matésine, on a un défaut de relais culturel dans des communes éloignées. Donc ça m'oblige à aller un peu plus sur le terrain et à communiquer aussi assez largement. Voilà, au niveau des difficultés, c'est vrai que c'est pas toujours évident de mobiliser des structures qui ne voient pas un intérêt immédiat à faire de l'éducation artistique et culturelle. Je pense par exemple à une école de musique communale, qui est déjà dans un cadre déjà bien précis. Donc là, on lui demande un peu de sortir de ce cadre-là et c'est pas toujours évident, voilà. Et c'est l'autre difficulté, c'est d'anticiper les projets pour éviter les conflits de calendrier entre ceux qui résonnent en année scolaire, ceux qui résonnent en année civile. Donc c'est aussi une difficulté.
Oui, effectivement, là, c'est un travail de longue haleine. Ouais. Malgré les réticences auxquelles vous avez fait allusion, pouvez-vous nous expliquer comment vous parvenez à favoriser l'émergence d'une culture commune dans vos dispositifs respectifs, Ève ?
C'est vraiment déjà en menant des projets sur le terrain, en co-construisant, c'est vraiment ce qui fait que concrètement tous les partenaires travaillent ensemble autour d'un projet. Il peut y avoir des projets où il y a deux structures culturelles, par exemple le théâtre et le musée qui vont travailler ensemble autour d'une thématique. Et puis, il y a les professeurs relais qui vont les mettre en relation avec un établissement scolaire. Et puis après, on va travailler avec une commune qui va les mettre en lien avec la maison des habitants. Et puis, on va faire des réunions. Et c'est avec ces réunions, sur le temps un peu long aussi, qu'on va vraiment arriver petit à petit à mieux se connaître et à mieux travailler ensemble. Et puis, il y a une chose aussi très importante, c'est qu'on organise beaucoup de formations avec les artistes et que souvent, les projets, ils sont précédés par un temps de formation. Et du coup, c'est vraiment un peu la colonne vertébrale de notre PLEA, des formations croisées où on mélange beaucoup d'acteurs. Et puis, on organise aussi des restitutions communes entre les structures et aussi des journées, tous les deux ans, on organise une journée de colloque qu'on appelle la journée PLEA. On invite un peu largement tous les partenaires potentiels du territoire et on va vraiment réfléchir autour de thématiques qu'on aimerait développer. Voilà un peu comment on essaye de créer une culture commune.
Et chez vous, Juliette, c'est pareil ?
Alors, c'est moins avancé, c'est beaucoup moins avancé. Mais ça me donne des idées. Et puis, moi, j'insiste pas mal sur la mise en valeur des actions. C'est important pour que les élus se saisissent de cette question, mais c'est aussi important pour les acteurs eux-mêmes. Et j'essaye aussi de mettre l'accent sur la charte pour l'EAC, qui rappelle les trois piliers de l'EAC, mais qui va aussi au-delà de voilà, la dimension émancipatrice, la dimension citoyenne de l'EAC. Et je trouve que c'est inspirant pour construire les actions, pour les évaluer et pour faire évoluer aussi la CTEAC dans le sens de l'expression des droits culturels. Voilà, pas être limité.
Oui, donc en fait, si je résume ce que j'entends, c'est des réunions quand même, pas mal de réunions, donc de rencontres en fait, avec les acteurs locaux, pour petit à petit faire adhérer et ramener les gens vers un projet, quoi.
Tout à fait.
C'est beaucoup de temps pour convaincre ou c'est juste une question de méthodologie?
Je dirais que il faut régulièrement remettre l'ouvrage sur le comment on appelle ça. Enfin, il faut les choses sont pas acquises une fois pour toutes, quoi. Donc il faut régulièrement revenir sur qu'est-ce que c'est que l'EAC, voilà.
D'accord. Bon, écoutez, c'est effectivement l'élu local, lui, c'est vrai il est possible qu'il ait une préoccupation qui est de voir quel est le retour sur investissement, ou en fait, régulièrement lui faire la démonstration que ça va apporter quelque chose. Et non, vous n'êtes pas confronté à ces comportements, ces tendances?
Pour ma part, pas trop, parce que vraiment, en tout cas jusqu'à maintenant, on avait des élus vraiment convaincus. Et en général, justement, on ne revient pas là-dessus. On ne revient pas sur l'intérêt de l'éducation artistique et culturelle. C'est un acquis, donc on n'a pas besoin de le démontrer. Après, bien sûr, il faut produire des bilans et des chiffres et des évaluations. Mais souvent, notre élu, justement, il disait, on ne va pas se justifier de l'intérêt de l'éducation artistique et culturelle. C'est acquis.
Elle passe à travers le changement d'équipe ou pas?
Eh bien, jusqu'à maintenant, oui. J'ai toujours du bois.
Non, mais c'est
oui,
important.
Oui, pour ma part aussi. Et puis, c'est vrai que on est attentif à ce qu'il y ait des restitutions et que l'élu puisse voir quelque chose de ce parcours d'éducation artistique et culturelle. Donc, au final, ça l'aide aussi à s'approprier cette démarche-là et à la faire sienne. Après, c'est vrai que les acteurs culturels, je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup la culture de l'évaluation. mais je ne sais pas si Eve, tu m'as contredire ou pas. Mais je trouve que ça évolue un peu. En fait, pour donner des exemples, moi, quand je suis arrivée, j'avais quasiment pas de bilan de fait. Donc, voilà, je m'appuyais sur des mini-bilans qui étaient constitués de chiffres. Donc, combien de personnes, combien d'heures d'atelier, enfin, voilà. Et petit à petit, en posant des questions, enfin, voilà, on arrive à ce que les porteurs de projets, ils soient dans quelque chose de plus qualitatif, qui redonne aussi du sens à leur action. Donc, voilà, il y a vraiment un intérêt à aller sur le terrain de l'évaluation et à être vigilant. L'évaluation n'est pas un audit, donc elle implique l'ensemble des partenaires, y compris les partenaires financeurs, qui ne sont pas juste là pour entendre le rapport d'évaluation, mais qui sont là aussi pour y contribuer.
Là, vous avez parlé, c'est quelque chose qui me vient comme ça, vous avez parlé des financeurs, mais est-ce que dans les projets, vous faites rentrer le public ou des gens qui seront publics dans le questionnement, dans le montage de vos projets? Ce n'est pas la préoccupation du moment?
La CAPI, jusqu'à maintenant, non, clairement. Ils n'étaient pas impliqués dans la conception des projets. C'est quelque chose à quoi on réfléchit, notamment à essayer d'impliquer des jeunes. Et on réfléchit à peut-être mettre en place un dispositif de jeunes ambassadeurs de la culture en partenariat avec d'autres associations. Mais bon, là, c'est juste en réflexion pour l'instant. Il n'y a encore rien de concret sur le terrain.
C'est un embryonnaire, quoi. D'accord. Mesdames, notre émission touche à sa fin. Selon vous, quels sont les leviers pour le bon fonctionnement d'un contrat territorial d'éducation artistique et culturelle ou d'un plan, d'un PLA, PLE, pardon. PLEA, pardon, j'allais encore faire une faute. Hein. Quels sont les points de vigilance que vous souhaiteriez signaler à un ou une collègue qui engage une démarche similaire à la vôtre?
Ève? Je commence? Oui. premier point de vigilance, attention, et parce que je parle d'expérience, à ne pas tomber dans le catalogue de projets. C'est-à-dire, nous, on est beaucoup de structures culturelles, on a beaucoup, beaucoup de projets, beaucoup d'idées, et du coup, on peut tomber un peu vite dans, justement, la pure consommation de projets, par les enseignants, notamment. Donc, il faut arriver vraiment à rester dans la co-construction, dans impliquer les enseignants vraiment dans les projets et pas être juste dans la consommation. Ça me paraît important.
Ça veut dire les amener dans une autre échelle de temps.
Et en tout cas, bien qu'ils comprennent bien l'engagement aussi que ça demande de faire un projet comme ça. C'est pas juste. C'est pas juste on fait son choix dans le catalogue et puis les artistes viennent et basta. Il y a tout un travail à faire en amont, en aval du projet, un travail partenarial. Ouais. Et puis après, je dirais que faut faire attention aussi à pas tomber dans une certaine routine et essayer de rester toujours innovant, ambitieux dans les projets, surtout quand on commence à être un vieux PLEA. Et puis aussi, on vient d'en parler, mais d'essayer d'impliquer un peu plus les participants, les jeunes et leurs familles dans ces projets. Enfin voilà, j'aurais plein d'autres points de vigilance, mais je ne sais pas si on a bien le temps. Mais
il faut y aller,
c'est les premiers.
S'il y en a
d'autres, c'est les premiers qui me sont venus à l'esprit.
Bon, mais je vais demander à Juliette de compléter ça ou de voir.
Je pense que c'est effectivement important pour chaque projet de bien préciser les objectifs pédagogiques et artistiques avec l'ensemble des parties prenantes. Parce que bon, ça s'est arrivé qu'on puisse avoir de vrais désaccords à la fin du projet sur ce qui était attendu. Voilà. Et puis, je dirais que c'est important aussi, peut-être plus pour des petits territoires, des territoires ruraux, d'avoir un projet qui fédère, un projet un peu locomotive. Et pour ça, la résidence d'artiste est je trouve, un bon support. Parce que ça s'inscrit dans la durée. Ça permet d'aller un peu partout sur le territoire et de mobiliser des partenaires très différents sur une intensité de projet très différente. Voilà, donc je trouve que c'est un bon outil.
Qu'est-ce que vous appelez résidence d'artiste?
Alors, résidence d'artiste, c'est faire venir une compagnie, une équipe artistique, que ce soit dans le domaine du théâtre, de la musique ou autre. Et lui demander un projet de résidence, peut être résidence de création, mais pas que, avec des temps d'atelier, des temps dans les écoles, des temps de création, et tout ça maillé avec les acteurs du territoire.
Ouais, c'est intéressant ça. Je crois que on a fait une émission sur Fréquence T où il y a une association dans le Doubs qui fait un peu ça. Qui fait venir des artistes qui restent un certain temps et qui créent des expositions ou des projets avec aussi la population autour.
Tout à fait, oui.
Ève, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, nous aussi, on essaye de développer des projets. Enfin, la résidence, l'intérêt, c'est aussi de travailler sur le temps long avec les artistes, qui est une présence forte et longue des artistes. Et c'est vrai que c'est un super outil, mais vraiment dire que c'est aussi vraiment en faisant et en travaillant ensemble sur le terrain qu'on avance et puis qu'on apprend à travailler vraiment ensemble et qu'on peut développer des projets. Voilà.
Bon, merci mesdames pour votre contribution, qui, je le souhaite, sera riche d'enseignements pour ceux qui nous ont écoutés. Je rappelle aux auditeurs et auditrices que mes deux invités d'aujourd'hui sont Ève Domenac, en charge du plan local d'éducation artistique de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, aussi appelée CAPI, et Juliette Brouat, en charge du contrat territorial d'éducation artistique et culturelle, appelé aussi CTEAC, pour la communauté de communes de la Matésine, située en Sud-Isère.
Au revoir, merci beaucoup.
Au revoir, merci à vous.
Quant à vous, chers auditeurs, j'espère que maintenant vous êtes en capacité d'apprécier le sujet du portage de projets d'éducation artistique et culturelle dans votre territoire. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.